soir. Vous êtes bien sûr à l'IRFM 93.1 et comme tous les samedis de 18h à 19h, c'est l'émission Lusitania. Aujourd'hui, l'émission elle va être divisée en deux parties. Une première partie dans laquelle on aura au téléphone Philippe Raposo depuis le Portugal pour nous parler de son concert de la semaine prochaine. Et en deuxième partie, Anna, qui aura comme invité Max Carvalho, traducteur et éditeur de l'anthologie Poésie du Portugal. Donc, on va partir en musique avec un morceau de Philippe Raposo. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on vient d'écouter un morceau de Philippe Raposo qui s'appelle Isaac. Donc, dans ce morceau, on est en communication donc avec Philippe Raposo. Philippe Raposo, vous m'écoutez? Allô, allô?
Allô.
Allô?
Allô?
Bonjour, allô. Philippe Raposo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis le Portugal. Vous serez en concert à Paris le 18 novembre dans le cadre donc de Jazzy Color, la 19e édition. Le concert se déroule à 20h au Goethe Institute, un concert organisé par le Centre culturel Camoges de Paris, donc dans le cadre de cette 19e édition de Jazzy Colors. Philippe Raposo. Bon, j'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu, un petit résumé de votre carrière, qui est énorme quand même.
Bonjour, je m'appelle Philippe Raposo, je suis un pianiste et compositeur portugais, habitant à Lisbonne, et parallèlement à la musique, j'adore l'improvisation et le cinéma. Alors, je suis aussi pianiste, résident à la Cinémathèque portugaise, jouant régulièrement pour des films muets. Les 18 novembre au Goethe-Institut, institut allemand à Paris, je vais vous présenter mon récent album intitulé Ocre, une recherche artistique sur la couleur et la musique pour piano. Toutes ces compositions s'inspirent à cette couleur, rouge ocre, qui est présente dans la première peinture rupestre.
C'est vrai, dans les cavernes, ont les premières marques des mains, des doigts, des dessins sont en ocre ou en noir. L'ocre qui vient de la terre et le noir qui venait du charbon.
Mm-hmm, c'est vrai.
Et donc, le nom de votre album, c'est Ocre, c'est, comment dire, une ode à nos racines.
Marlene, se não se importa, eu falarei agora em português.
Pode falar em português. Eu vou tentar traduzir, pouco a pouco.
Obrigado. Faça-me só a pergunta, essa pergunta final que fez.
Sim, a pergunta final era, esta, o nome do seu, do seu álbum, Ocre, você falou que era em relação às cores dos primeiros pigmentos que se encontram nas cavernas. Sim. E por isso é que eu estava a perguntar se o CD também tem algo a ver com os primeiros homens nesta terra. Vou traduzir. Donc, j'ai demandé à Philippe Raposo si le nom ocre qui vient de ces premiers pigments qu'on trouve dans les cavernes a à voir dans son album quelque chose avec la réflexion, avec l'apparition de l'homme sur cette planète bleue qui est la Terre.
Absolument, Marlene. Este disco surge de uma investigação artística que eu tenho feito sobre as primeiras gravuras conhecidas em Lascaux,
Donc,
em França.
Portanto, Philippe nous dit que cet album apparaît parce que c'est une recherche qu'il a fait avec les grottes de Lascaux ici en France.
E em Portugal, Foscoa.
E ao Portugal, bien sûr, Foscoa, avec les dessins. Oui.
Desta investigação, um dos primeiros pigmentos que existe nestas grutas e nestas gravuras era precisamente o ocre.
E um de ces premières. De cette première peinture qui apparaît dans ces gravures rupestres, c'est l'ocre. C'est la couleur ocre.
Então este disco é uma homenagem aos primeiros artistas que nessas cavernas e nessas paredes gravaram a primeira forma de arte.
Donc c'est un hommage à ces premiers artistes que dans ces cavernes ont gravé, ont dessiné.
E precisamente o segundo tema do álbum, que se chama Blombos Cave, é sobre uma gruta na África do Sul, onde se fazia precisamente este pigmento, o ocre.
E a deuxième partie de son album fait référence à une caverne, à des découvertes aussi en Afrique du Sud, dans lesquelles le ocre est le pigment principal des dessins qui sont apparus là-bas.
Enfim, o vermelho e o ocre vão aparecendo no álbum de diferentes formas, aparecem em forma de fogo ou em forma de amor, em forma de ritual, e todas estas músicas estão de certa forma ligadas a esta cor vermelha.
Donc, dans son album, il y a la couleur ocre et rouge qui apparaissent, qui ont à voir avec le feu, l'amour, les rituels, et que vont apparaître peu à peu ces couleurs sur forme de musique dans son album.
Et pense que esta é a síntese do nome Ocre.
Donc, c'est pour cela que son album s'appelle Ocre. Alors, Philippe Raposo, je sais que vous avez beaucoup travaillé dans beaucoup de choses, avec beaucoup d'orchestres, mais vous avez dit que vous avez travaillé aussi avec... vous avez fait de la musique pour des films muets portugais, mais vous avez fait aussi de la musique, vous avez composé aussi pour des films et du théâtre. Et je me demandais si la composition d'un album ou le travail qu'on doit réaliser pour un concert est le même que ou est différent de celui que vous devez travailler ou faire pour, par exemple, une pièce de théâtre ou un film, comme vous avez fait pour la pièce, par exemple, Le Toit du Monde, que vous avez créé des musiques en collaboration avec l'écrivain angolais Ondjaki, qui d'ailleurs on a parlé il y a quelques mois de son livre Grand-mère 19 et les secrets du Soviet, ici, qui a été édité en France chez Métayer. Et donc, comment ça se passe? Qui impose quoi? Est-ce que c'est l'écrivain? Est-ce que c'est les musiciens? Est-ce que c'est un binôme qui s'est créé?
Sim. Bem, escrever para teatro ou cinema acaba por ser diferente do que escrever, por exemplo, uma peça para piano solo. Isto porque quando eu escrevo para uma imagem, eu estou ligado intimamente a essa imagem, ou a um texto, se for o caso do teatro.
Donc, quand je écris pour les cinémas ou pour les théâtres, je suis un peu lié aux images ou au texte qui va être dit pendant la pièce, et la composition que j'ai faite n'est pas la même que quand je compose pour piano. Donc une pièce pour piano qui est différente de celle du travail que j'ai fait pour les théâtres ou les cinémas.
Portanto, quando trabalho com cinema, existe sempre um grande respeito pela imagem. E aquilo que eu tento fazer é, à semelhança de um costureiro de alta costura, escrever música de forma a vestir a imagem o melhor possível.
Donc, quand je travaille pour le cinéma, par exemple, j'accompagne les images qui apparaissent sur l'écran comme si j'étais, comme si je faisais de la haute couture, donc du sur-mesure. J'ai un grand respect pour ces images qui sont là et donc j'essaie simplement de les sublimer.
E mesmo quando trabalho com um filme mudo, enfim, do início do século XX, um Chaplin, por exemplo, mesmo nestas alturas, é como se eu muitas vezes ouvisse a voz do realizador, neste caso o Chaplin, a falar comigo como se dissesse aquilo que o filme precisa. E é um diálogo permanente, eu sei que é um diálogo imaginário, mas é um diálogo entre o filme, o realizador e eu.
Par exemple, quand j'ai fait de la musique pour un film de Chaplin, par exemple, c'est comme si un peu la voix du créateur de Chaplin était avec moi et m'expliquait, me disait qu'est-ce qu'il voulait montrer ou décrire avec ces images. Et donc, je suis un peu comme pris par cet imaginaire. C'était dialogue imaginaire que j'ai avec Chaplin pour accompagner et créer la musique à ce moment-là.
Enfim, quando eu um concerto como o concerto que irei fazer no dia 18 no Instituto Alemão, será um concerto dedicado exclusivamente a um álbum meu, gravado, não é? Com a música minha, e há uma liberdade, enfim, onde eu pianística, não é? Autoral, que acaba por estar associada a um concerto a solo que combina, enfim, combina a música, o jazz, mas também a influência da música clássica e a influência da música tradicional.
Donc, dans ce concert que je vais réaliser le 18 novembre au Goethe Institute, dans ce concert, c'est une création. C'est en effet la reproduction de mon album Ocre. Et quand j'ai créé pour cet album, c'est comme si je faisais un concert en solo. Donc, c'est ma création, c'est ce que je veux faire. Et seulement ça. Donc, c'est mon travail personnel.
Uhum. Penso que esta é a síntese, digamos, desse trabalho entre o cinema, o teatro e os concertos a solo.
Et c'est un peu ce qui... C'est un bocado, como você disse, entre o teatro e o cinema? É diferente.
É uma síntese. Entre o cinema e o teatro é muito parecido. Eu diria, porque existe sempre a imagem, neste caso há um texto, há uma representação, portanto a música é muito parecido no sentido, a minha posição enquanto compositor para teatro ou cinema acaba por ser muito parecida.
C'est-à-dire, ma posição, ma façon de trabalhar, aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma, c'est très ressemblant. Dans le cinéma, il y a des images, dans le théâtre, il y a des mots, et je suis en communion, on va dire, avec ces images et ces mots que je mets en musique. Mm-hmm. Donc, on va passer un morceau. Et après on continue notre discussion, ça s'appelle Sarabande et vous allez me dire aussi les pourquoi de cet nom. Et j'ai oublié de dire que dans vos compositions, dans votre album, les compositions sont bien sûr, il y aura dans cette concert du 18 du jazz, mais vous êtes aussi inspiré par de la musique classique et par de la musique traditionnelle. Donc on va écouter Sarabande, peut-être ça a quelque chose à voir avec ça. On écoute. Toujours à l'antenne avec Philippe Raposo qui, lui, il est au Portugal et qui donc nous parle de son concert qui aura lieu le 18 novembre. Donc là, on vient d'écouter Sarabande.
Et justement, on parlait...
C'est la voix d'Anna.
Oui, bonjour à tous. On parlait justement de Sarabande comme une danse d'origine espagnole, d'un rythme vif. Et c'est exactement ça qu'on se disait
voilà.
En écoutant.
Voilà,
sinon.
Exactement. Merci Anna, parce que je cherchais les mots. Donc, oui, Philippe Raposo. Donc, on vient d'écouter Sarabande. Et Sarabande, pourquoi ?
Sarabande para já faz parte d'un cycle de danses d'une suite de Johann Sebastian Bach. Esta sarabande para mim simboliza os ciclos da vida, porque sarabande também está associada à dança, e neste sentido a dança simboliza esse ciclo e os ciclos da vida, e achei por bem fazer esta homenagem a Bach e acabar desta forma com a dança da vida.
Donc, Philippe Raposo vient de nous dire que ce morceau qui s'appelle Sarabande, c'est comme un hommage à Bach, puisque c'est, ça a quelque chose à voir avec une suite de Bach. Et c'est une danse, comme nous disait Anna. Et pour lui, c'est comme un cycle de vie. La danse fait partie de la vie. Et donc, c'est le cycle de cette vie qui est en nous tous. Alors, diga.
Sim, de certa forma, ia fazer uma ponte também com o ocre, isto porque no passado os corpos das pessoas mortas eram pintados com este pigmento, o ocre, como se na vida, no além, não é? Como se este ocre fosse um sangue simbólico que os protegesse e os guiasse também no mundo dos mortos.
Donc, Philippe nous dit que cette morceau sarabande, ça a à voir avec la danse aussi, mais aussi avec la mort, puisque autrefois, les personnes elles étaient enterrées et elles étaient couvertes de cette couleur ocre, c'était ce pigment qui les couvrait comme si c'était le sang de la vie pour la vie de l'au-delà. Donc, après la mort, la vie des morts continuait au-delà avec cette teinture ocre qui est le nom de son album. Alors, donc Philippe Raposo, cet album ocre, d'après ce que j'ai cru comprendre, fait partie d'une trilogie. Est-ce que la trilogie est déjà faite, va être faite, ou elle est dans votre tête, ça va sortir bientôt, et quelles vont être les couleurs suivantes?
O ocre pertence, como disse, à trilogia, a uma trilogia das cores, é o volume 1, e este, o próximo volume irá chamar-se Obsidiana, que é uma rocha vulcânica preta, e será dedicado à cor preta, e será lançado no próximo ano, em maio.
Donc, en effet, cet album ocre et cette couleur ocre fait partie d'une trilogie. Le deuxième va sortir au printemps prochain et s'appelle Obsidiana.
Obsidiana.
Obsidiana, qui est une roche volcanique noire et qui va donner donc la couleur de votre deuxième album de cette trilogie. C'est ça?
Et le troisième volume, qui sera lancé en 2024, sera dedicado à cor branca et ira chamar-se Variações do Branco.
Ok, et les troisième morceau de cette trilogie, le troisième album, ça sera la couleur blanche. Et comment est-ce que ça va chamar?
Variations
des nuances de blanc. Et il va sortir donc en 2024. En 2024, des nuances de blanc. Donc on a ocre, obsidiane, la couleur ocre, le noir et le blanc. C'est ça?
E já agora, uma curiosidade, variações do branco, isto porque, imagine, os esquimós na Antártida, a cor branca, para eles, não é só branco, eles têm cerca de 60 variações de branco, porque todo o território é branco, então eles distinguem os diferentes tipos de branco de 60 formas diferentes. E aqui, obviamente, eu farei as variações do branco de forma musical.
Donc, ce dernier album de la trilogie des nuances de blanc, c'est parce que dans le Nord, les Esquimaux, ils n'utilisent pas un mot pour désigner le blanc. Ils ont 60 nuances de mots pour désigner la couleur blanche, parce que tout ce qui les entoure est blanc, mais le blanc n'est pas tout à fait blanc. Il a des variations, il a des nuances. Et donc, dans ce dernier album de la trilogie, Philippe Raposo va nous montrer ses nuances de blanc. Voilà. Mm-hmm. Mais écoutez, merci beaucoup, Philippe Raposo, d'avoir été avec nous. Je voulais vous rappeler donc, que vous êtes pianiste, compositeur, arrangeur, portugais, mm-hmm. bien sûr, et que vous serez en concert le 18 novembre à 20h au Goethe-Institut, donc dans le cadre de la 19e édition Jazzy Color, concert organisé par le Centre culturel Camões de Paris. Donc un grand merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Et merci, j'espère qu'un de ces jours, on pourra vous avoir ici en direct à l'antenne. Et on pourra donc en parler un petit peu plus de vos compositions et de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui. On va se quitter avec un dernier morceau, Un Deus Desconhecido, juste pour demander, pourquoi Un Deus Desconhecido?
Há uma passagem interessante no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo visita um templo romano, em que existia um sítio que era dedicado a um Deus desconhecido. Para mim, toda a imagética relacionada com o mundo pré-histórico está relacionado com as divindades ligadas ao culto da terra, ao culto da deusa-mãe, e para mim essa é a divindade, essa divindade desconhecida, e é uma homenagem que eu faço.
Donc dans ce morceau qu'on va écouter tout de suite après, qui s'appelle « Un Deus Desconhecido », Philippe Raposo, c'est un petit clin d'œil à Paul l'apôtre, Paul, que en visitant un temple ancien, romain, a vu que dans cet temple, il y avait un coin pour un dieu non connu, et inconnu. Et donc, pour lui, cet morceau évoque un petit peu ça, les dieux inconnus, les divinités, comme les divinités de la terre, on pourrait dire que même pour la Mama Pacha, comme on dit dans les Pérou, voilà, la divinité de la terre. Et donc c'est un hommage à cette divinité inconnue et qui en même temps est connue, qui est notre terre. C'est bien ça. Bon, mais oui, voilà, merci beaucoup alors d'avoir été avec nous, et on se quitte donc avec ce morceau, Un Deus Desconhecido. Merci Philippe Raposo.
Merci Marlène. Thank you.
Et vous venez d'écouter les notes de piano de Philippe Raposo avec le morceau Un Deus Desconhecido. Philippe Raposo, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici à l'antenne avec Marlène et moi. Nous sommes au studio de Radio Aligre. Vous êtes sur Radio Aligre 93.1. Et vous êtes sur Lusitania avec Marlène, Anna et nos chers techniciens Axel et Thibault à la technique. Là, nous allons parler d'un autre sujet, un sujet de la parution d'un livre importantissime dans le paysage des livres et de la littérature portugaise, La poésie du Portugal, des origines au XXe siècle. Un livre des éditions Chandaigne, une édition de Max Carvalho en collaboration avec Anne Lim, que nous connaissons bien. Et avant de vous parler un peu plus de ce livre, je rentre dans le vif du sujet et j'aimerais bien vous lire deux poèmes. Il y avait un mot dans le noir, minuscule, ignoré. Il martelait dans l'obscurité, martelait le socle d'eau, du fond du temps, il martelait. Un mot dans le noir qui m'appelait. Ce mot dans le noir a été écrit par Eugênio d'Andrade, traduit par Max Carvalho. Et ce mot dans le noir est aussi notre leitmotiv pour l'échange que nous aurons dans quelques instants avec Max, qui sera à l'antenne aussi avec nous. Et avant de vous donner plus de détails, toujours dans cette provocation poétique, je partage aussi un autre poème que je ne connaissais pas, un poème de Rui Nopfli, et qui s'appelle Autoportrait. Je lis. J'ai hérité des Portugais la nostalgie lyrique, mon passéisme et mes regrets d'une enfance, un lancelet parmi les tournesols fous, les jeux, le regard ardent de l'arabe et cette tendance aux extrêmes. Je passe du bord des larmes à la brusque incandescence des mots blessants, du rire limpide à l'angoisse la plus amère. J'ai hérité des Portugais le côté macabre, l'âme inquistée de fado, rebelle à toutes les ablations de horde culturelle. Tenant pour acquis que le rouge, plus que le blanc, justifiera l'orthodoxie du vert dans l'accompagnement de certains, mais à consistance et saveur tellurique. J'ai hérité des Portugais l'œil égrillard, concupiscent et multiracial, lorgnant le sang entre vous, un bout de jambe, la naissance des fesses, la repartie prompte et sûre, décochée du bout des lèvres, le plaisir savoureux, attendri de la médisance. Côté suisse, l'ex de mon arrière-grand-père, j'hérite d'une vieille montre à gousset et d'un nom vague, bizarre. Ce poème de Rui Nopfli, ça a été traduit par Max de Carvalho. Le premier d'Eugênio d'Andrade a été traduit par Michel Chandaigne. Et justement, ce sont un peu notre porte d'entrée pour le lancement de ce livre que vient de paraître aux éditions Chandaigne. Une collaboration de Anne Lim et Max de Carvalho. Un partenariat déjà réussi, puisque les deux ont participé et ont travaillé ensemble pour la publication de l'anthologie La poésie au Brésil en 2012. Je vous parle un petit peu plus de ce livre. Ce livre a 1900 pages, plus de 1100 poèmes, 288 auteurs et différents courants de styles littéraires. Par exemple, cette anthologie va couvrir l'art des troubadours, avec par exemple un poème de Sancho Ier, l'un de nos rois, Cancioneiro de Garcia de Rezende, le classicisme et le maniérisme dont Gil Vicente et Luís de Camões sont des noms assez importants, l'âge baroque, l'arcadisme et pré-romantisme, le romantisme de Almeida Garret, Alexandre Colin, qui sont tous les deux de Porto, dont, par curiosité, Marlène et moi sommes originaires, donc nous connaissons bien. Parnasse, symbolisme, le fin de siècle et la modernité. C'est la période la plus représentée dans ce livre, plus diversifiée et qui illustre la diversité, la richesse des dernières décennies du champ littéraire au Portugal. Et donc, qui retrace l'avant-gardisme des auteurs de la revue Orphée, comme Pessoa ou Mário Sá Carneiro, jusqu'à des mouvements plus expérimentalistes, comme Anna Hatterley. Le choix de poètes est vaste. Mário de Sá Carneiro e Pessoa, déjà nommé, mas aussi António Judião, Manuel da Fonseca, Jorge de Sena, Sofia de Melo Breiner, Alexandre O'Neill, Alberto, Pedro Taman, récemment disparu, etc. C'est notre grand plaisir d'accueillir à l'antenne Max de Carvalho, qui est au téléphone depuis la Bretagne où il habite. Et je me réjouis de lui dire avec Marlène, bonjour Max, enchanté et bienvenue bonjour. Sur Lusitania.
Bonjour Max.
Bonjour, bonjour, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Depuis ma lointaine Bretagne, je vous écoute avec beaucoup d'attention, de Finistère en Finistère, vous voyez.
On va dire comme ça.
Et écoutez, merci oui de faire cette présentation, parce que pour moi aussi c'est important d'avoir cette distance. Quand on fait une chose, on est comment dire abîmé littéralement comme un navire au fond des flots, et là vous me permettez d'émerger, de voir avec un œil distancié. Je vous remercie beaucoup.
C'est nous que vous remercions. Et nous sommes très heureuses d'accueillir le lancement de ce livre ici chez Lusitania. Et justement, pour partager avec nos auditeurs, parlez-nous un peu de l'origine de ce livre.
L'origine du livre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Anna, est assez lointaine, puisque étant né brésilien, bon, je suis un vrai faux brésilien parce qu'il y a un demi-siècle que je suis en Europe, mais tout de même je suis né au Brésil et je connaissais la poésie du Brésil naturellement par ma famille. Et donc le premier objet a été d'explorer le trésor poétique brésilien, mais qui est ultérieur évidemment au trésor poétique portugais et qui lui est intimement lié encore aujourd'hui, j'en suis persuadé, mais différemment. Mais en tout cas, la littérature a été évidemment commune à ces deux pays, et donc la poésie luso-brésilienne est venue ainsi me conduire vers d'autres chemins, jusqu'à la poésie du Portugal, qui était évidemment plus proche pour nos auditeurs.
Et justement, donc avec Anne Lima, vous avez collaboré déjà pour la première anthologie. Donc là, vous avez reproduit cette équipe qui gagne, on dirait.
Oui, ben nous formons un binôme amical et professionnel très précieux. Je pense que, vous voyez, tout le travail du livre et de l'objet est entièrement conçu par Anne. Et elle a été évidemment aussi très encourageante, parce que vous imaginez que dans une longue traversée comme celle-ci, il y a des moments de découragement quand on est seul à tenir un gouvernail de vaisseau fantôme. Donc elle m'a souvent repêché au bord du découragement et permis d'arriver à un port, pour utiliser toutes les images maritimes chères au Portugal.
Et continuons dans ces images maritimes. Combien de temps a fallu pour traverser la mer de la traduction de ces 1000 poèmes?
C'est très difficile à estimer, parce que j'ai commencé sans doute le livre avant qu'il ne soit vraiment déjà programmé et fixé. Mais en tout cas, il y a eu 4 années intenses de travail et sans relâche. Et surtout la dernière année, avec une charge considérable pour Anne, justement, dans la dernière année, évidemment, parce qu'il fallait concevoir le livre en tant qu'existant, enfin ça,
comme objet.
Le contenant, l'objet, voilà, comme objet, et elle l'a fait admirablement.
Et c'est un très bel objet, hein.
Oui, c'est un très bel objet, c'est vrai. Quand je l'ai découvert, parce que évidemment je ne l'ai découvert que quand je l'ai eu entre les mains, je savais ce qu'il y aurait à peu près, mais c'est une chose que de l'imaginer, et c'est une autre que de le voir réalisé avec tant de soin et de goût. Non, vraiment, c'est un très bel objet.
Très bel objet et très important. Nous l'avons ici au studio et nous sommes ravis de pouvoir feuilleter.
Bon, une chose que je voulais dire tout de même à propos du projet, c'est que ça m'a frappé que la poésie du Portugal, qui est tout de même un trésor non seulement pour le Portugal, mais qui est un trésor pour l'Europe et au-delà, qui a une valeur universelle, soit négligé du point de vue du panorama, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de publications, notamment grâce à Michel Chandaigne, à Patrick Quillier, des traducteurs de grande valeur, dans les quatre dernières décennies, et à partir du moment où Pessoa aussi est devenu une célébrité mondiale, il y a eu beaucoup, un vrai travail éditorial français pour les volumes, pour les œuvres en volume, pour les poètes notamment, mais depuis 1971, avec l'anthologie parue chez Gallimard et dirigée par Isabelle Mereles, poète elle-même, surréaliste, qui est vivante, il n'y avait rien eu de tel, et je trouvais que c'était absolument incongru, parce que l'Italie et l'Espagne, qui sont également des littératures de langue romane, ont leur Pléiade, par exemple, et ont d'autres anthologies partielles. Bon, mais une anthologie générale manquait pour le Portugal. Je pense que ça, c'était aussi un des motifs qui m'a guidé et qui m'a... je me suis acharné, si vous voulez, parce qu'il me semblait vraiment que je ne pouvais pas lâcher cette chose-là. Il fallait quelqu'un d'assez fou pour aller pour aller jusqu'au bout, voilà, si personne ne le faisait.
Et justement, concernant la sélection des poèmes qui font partie de cette anthologie, comment les poèmes et les courants ont été choisis, sélectionnés? J'imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui est resté dehors cette sélection.
Ah, évidemment. Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que c'est un tout petit échantillon. Quand même, vous auriez le double, ce serait encore un échantillon, parce que le foisonnement est tel qu'il est extrêmement difficile d'établir un choix. Et comme je ne me suis pas épargné, ce que j'aurais pu faire, mais je ne me suis pas épargné de lire autant que possible, ne serait-ce que des anthologies de chaque poète. Enfin, si je ne pouvais pas lire l'œuvre entière, parce que c'est surhumain pour tant de poètes, eh bien, je n'ai pas fait l'économie de cette lecture, et il a fallu faire un choix, donc, à partir d'une base très ample. Tout ça n'a pas facilité mon travail, mais je pense que ça l'a enrichi de poèmes qui, peut-être, ne sont pas reproduits souvent ailleurs. Je parle maintenant pour les anthologies portugaises qui paraissent au Portugal. Bon, ici, le lecteur cible est le lecteur français. Mais souvent, dans les anthologies, et les anthologistes font, je pense, cette petite erreur, commettent cette erreur, ou c'est une facilité, de reproduire des poèmes qui sont déjà parus habituellement dans les anthologies précédentes. Tandis que là, bien sûr, on trouvera des poèmes qui sont déjà parus ailleurs, évidemment, mais je n'ai pas écarté, loin de là, la possibilité d'enrichir le choix à des poèmes qui ne sont pas reproduits ou qui sont très peu connus de tel ou tel poète et qui sont extraordinaires.
Extraordinaire, en effet, et aussi pour enrichir un peu ce que vous venez de dire, cette anthologie, elle est bilingue. Donc, d'un côté de la page, nous avons le poème en portugais, et de l'autre côté, en français. C'est quelque chose qu'il y avait déjà dans l'autre format. Et donc, du coup, ça devient un objet qui est tout à fait riche, valable, important et intéressant pour tout lecteur des deux langues, parce que même pour un lecteur purement lusophone, ça reste une anthologie très 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 importante et vaste, comme vous le dites.
Oui. je suis heureux que vous souligniez ce point-là, d'abord parce que Chandaigne a l'habitude justement de présenter ses éditions en bilingue, ensuite parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'anthologie parue chez Gallimard en 71, donc, n'était pas bilingue, parce que Gallimard n'a pas donné les moyens nécessaires à Isabelle Mereles, qui s'est beaucoup battue pour qu'il y ait au moins cette ouverture sur le panorama poétique portugais, et qui a fait un très beau travail, mais qui n'a pas eu les moyens, si vous voulez, que Chandaigne m'a donné. Et c'est important, et je pense aussi que pour les Portugais, puisque les Portugais pourront avoir, en tout cas, certains exemplaires de ce livre, je pense qu'il va circuler un peu également au Portugal. Je pense qu'ils auront aussi une... Je parlais tout à l'heure de vision un peu distanciée. Eh bien, ils auront aussi un recul par rapport à leur propre richesse, qui est, à mon sens, exceptionnelle au niveau européen. Voilà, ça, je le maintiens.
Tout à fait. Avant de passer à la prochaine question, je vous propose la lecture de l'un des poèmes qui est dans cette anthologie et elle sera un peu le contexte de ma prochaine question justement. Donc le poème c'est de Georges Tsin et le poème c'est « La vie sur la porte de la librairie ». Que les âmes sensibles s'abstiennent de lire ce livre, surtout les matamores du juron domestique, les nymphes mâles, les vestales de la pureté, ceux qui avancent par petits bonds et à cloche-pied, leurs deux mains chastes plaquées l'une devant, l'autre derrière, tandis que de la troisième ils cherchent à bâillonner, ceux qui avancent sur leurs deux pieds sans mâcher les mots. Leurs mots. Que celui qui ne connaît rien à l'amour se garde bien de toute forme d'amour, aussi bien que l'amour charnel, que celui qui se poursuit lui-même sans espoir de récompense, vil, éthéré, éternel presque. C'est d'amour, de poésie, d'avoir une patrie qu'il s'agit ici. Que la vermine ne s'avise pas de franchir ce seuil sacré. Il lui en cuira si elle ose remplir de rats ce lieu de liberté, où l'on meurt avec une dignité toute humaine de la douleur d'être né au Portugal, sans pouvoir rien à cela sinon le porter en son âme. La différence entre les spécialistes et les poètes, c'est que les premiers passent toute leur vie le nez sur un sujet à essayer de décrypter, tandis que les seconds ouvrent le livre en lisant trois pages, survolent le reste et encore comprennent tout de suite ce que les autres n'ont pas réussi à comprendre. C'est pour ça que les spécialistes détestent les poètes, capables de tout lire sans avoir rien lu, alors qu'eux n'ont rien lu, qu'ils lisent tout. L'ennui, c'est que certains poètes poussent un peu plus loin l'analphabétisme, discréditant ainsi la Gaia Scientia. Et Max, j'ai lu ce poème, ça fait partie d'une des sélections que Anne et vous avez choisi pour faire quelques autres objets qui sont des cartes postales destinées à des heureux libraires, je dirais. Je m'adresse donc aux spécialistes de la traduction, aux spécialistes de la langue. Et en ayant ça comme préambule et une pièce gentille et politique aux traducteurs, j'aimerais justement vous poser la question sur les défis de traduire de la poésie. Quelles spécificités, défis, difficultés a un traducteur à traduire un poème ?
Alors moi je suis monomaniaque, je suis exclusif et je ne traduis que de la poésie. Donc là vous êtes la bonne enseigne pour que j'essaie de vous répondre quelque chose. Écoutez, j'ai souvent l'habitude de dire que la traduction de poésie est impossible, mais qu'elle est nécessaire. Donc ce paradoxe initial me guide dans mes travaux. Je crois que sans expérience poétique personnelle et sans expérience de la poésie traduite, l'aventure risque de tourner court. Donc je pars du principe qu'il faut aimer à minima et si possible à maxima le poème qu'on est en train de traduire afin de le ressusciter en français. Parce qu'il faut qu'à l'arrivée, donc dans notre cas la langue française, il faut que nous ayons un poème français. Donc ce poème ayant été vécu, pensé, écrit en portugais, doit d'abord mourir, et c'est très étrange, doit d'abord mourir à sa propre essence, qui est sonore, visuelle, sémantique, etc. Il doit se dissoudre et il doit renaître dans une autre langue. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de l'anthologie. Donc je suis un traducteur exclusif de poésie. Ai-je réussi, ai-je échoué? Sans doute les deux. En tout cas, je l'ai tenté.
c'est très joli, c'est très joli comme réponse. Vous êtes franco-brésilien, donc vous avez cette double appartenance à deux cultures, à deux langues, et vous avez aussi déjà traduit de la poésie, donc faire vivre un poème brésilien dans la langue française. Donc ce livre-là, la poésie du Portugal, il commence avec une citation de Pessoa, de son œuvre Message, qui dit « Le mythe est le rien qui est tout ». Et ce que vous venez de dire, et mon interprétation, c'est que les poètes et la poésie sont intimement liés à l'habillage de ces mythes. Et cet exercice dont vous venez de parler évoque un peu, cette liaison, on va dire comme ça.
Je suis d'accord.
Merci.
Je trouve que le rapprochement est très juste.
Mais en connaissant bien oui. ces deux poésies de ces deux pays, avez-vous des ressentis différents entre ces deux façons de penser, de vivre, de sentir la poésie entre le Portugal et le Brésil?
Oui, c'est assez sensible, même si à tout moment on se rend compte que ce sont des poésies sœurs, enfin, ou mère et fille, enfin, je ne sais pas quelle paternité ou maternité on peut accorder. Je prendrai l'exemple de la saudade, hein, qui est commune aux deux peuples et qui s'est exportée aussi dans l'Afrique lusophone. Et bon, je dirais que ces deux saudades, elles sont assez différentes dans leur expression. Il y a plus de, sans doute, de gravité, ce sont des généralités, mais enfin tout de même je l'ai ressenti, il y a plus de gravité, un aspect plus sombre peut-être dans l'expression de la saudade portugaise, et le fado comme expression populaire est très éloquent à ce propos. Au Brésil, la saudade est irriguée, je trouve, enfin c'est comme ça que je l'aperçois depuis mes 50 ans d'Europe, est irriguée d'une certaine autodérision. Et c'est comme si le mélancolique brésilien, comme d'ailleurs dans un poème de Pessoa merveilleux, Lisbonne revisité, voulait qu'on lui fiche la paix. C'est très curieux. Voilà, je crois que le contraste entre les deux poésies pourrait se résumer à travers ce contraste particulier entre les deux formes de mélancolie ou de saudade.
Merci beaucoup Max. Nous avons très peu de temps avant de quitter l'antenne. Je ne peux pas quitter le programme et vous dire au revoir sans dire à notre public, nos auditeurs de région parisienne, que Max de Carvalho et Anne Lima seront à Paris 25 novembre à la librairie Le Comptoir des Mots dans le 20e arrondissement. Plus précisément 239 rue des Pyrénées. C'est un événement ouvert à tous. J'ai regardé en ligne, étant donné les consignes de sanitaires, plusieurs.
Il faut le pass, bien sûr.
Et même, je suis tombée sur un site pour s'inscrire, pour justement être sûre de pouvoir y être. Donc, notez bien dans vos agendas, jeudi 25 novembre à 20h, dans la librairie Le Comptoir des Mots, 239 rue des Pyrénées, 20e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Max, pour votre générosité,
merci
votre accueil.
Merci. À bientôt.
À très, très bientôt. Et avant de dire au revoir à tout le monde, je termine avec un dernier poème que j'espère ou je souhaite que ce soit comme une fenêtre pour le futur. Et petite anecdote, c'est un poème que j'ai chez mes parents au Portugal, et donc j'étais assez surprise de le voir ici, et ça évoque aussi notre passé de dictature et de résistance. Nous avons des contraintes de temps, mais ça ira. Donc, c'est un poème de Luís Veiga Leitão à une bicyclette dessinée dans ma cellule. Sur ce mur lisse qui de la tête aux pieds m'habille, sois remercié, ô mon ami, pour les voyages offerts. Ici, où le jour est mal né, jamais je ne me suis lassé de l'itinéraire que traça le crayon interdit. Loué soit la main qui t'a créé. Les yeux en selle, j'ai pédalé, traversant pour voyager plus loin que moi. c'était Lusitania, Marlène et Anna, et Elena, que peut-être qui, vous avez écoutée.
Entendu un petit peu, mais oui, voilà. Non, elle a été mignonne comme tout.
Elena, c'est ma fille de 5 ans qui est avec nous à le studio. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Philippe Raposo, Max Carvalho, deux événements, 18 novembre, oui, 18 Institut Gauthier, oui, concert de Philippe.
Institute.
Et le 25 novembre, lecture de l'anthologie de la poésie du Portugal avec et Anne Lima et Max Carvalho.
Et un grand merci à Axel et à Thibaut qui sont à la technique et qui nous ont permis de faire cette belle émission.
Très
donc,
bien.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous et à samedi, très bientôt.
À samedi prochain, 18h, 19h pour un nouveau Lusitania. Au revoir à tous.
Au revoir.